RFI.
Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris et à Nice, 5h30 à Conakry. Et tout de suite, le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour, RFI sur les bords de la mer Méditerranée. Cette édition commence sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France. Puisque s'ouvre à Nice, donc la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, des dizaines de chefs d'État vont tenter d'avancer dans la protection de ces écosystèmes. Les menaces viennent de toutes parts. Pollution, surexploitation, réchauffement. RFI y consacre une très large part de ses antennes aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Éclairage toute la semaine. Édition spéciale dans un peu plus d'une demi-heure. Le Rwanda claque la porte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il déplore une instrumentalisation de la part de la République démocratique du Congo. La RDC, par ailleurs, où la multiplication des braquages armés en plein jour à Kinshasa remonte jusqu'au président Tshisekedi, le chef de l'État demande une mobilisation des forces de sécurité. Et puis au Congo, Brazzaville, voisin, le directeur de la police aimerait limiter les recours aux gardes à vue. Que ce régime soit réservé aux délits et aux crimes les plus graves, demande le général Obamiyitu. Faire en sorte donc que la Terre continue de porter son titre de planète bleue. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan s'ouvre ce matin à Nice, ville du sud de la France, sur les bords de la Méditerranée. L'UNOC-3 pour son titre officiel. La France et le Costa Rica, co-organisateurs, espèrent avancer dans plusieurs directions, mais vers un même objectif, protéger l'océan de tous les fléaux qui le menacent. Le réchauffement, l'acidification, ses pollutions diverses, le pillage de ses ressources, 5 océans et des dizaines de mers différentes à protéger, tout cela regroupé sous un seul terme générique, levé de rideau Simon Rosé.
C'est la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan et non les océans. Il s'agit de prendre soin de l'océan mondial. Les objectifs sont donc avant tout internationaux, avec en premier lieu progresser vers la cible de 60 pays ratifiant le traité sur la haute mer, seuil nécessaire pour l'entrée en vigueur de ce texte négocié depuis de longues années. Cela dit, certains points de négociation concernent grandement les pays côtiers africains, comme tous les pays littoraux, le Bénin, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud et tous les autres sont confrontés au recul du traité de côte et à la montée des eaux. On attend ainsi des annonces financières, notamment pour les aider à s'y adapter. Autre enjeu énorme, la pêche et la surpêche. Les stocks et la ressource sont de plus en plus durs d'accès. Création d'aires marines protégées pour permettre aux poissons de se reproduire. Lutte contre la pêche illégale sont également au menu des discussions. Enfin, autre sujet particulièrement important sur les littoraux africains, la pollution plastique notamment. Sur ce thème, pas de décision attendue, mais on espère des avancées dans les discussions en cours sur l'adoption d'un traité dédié à cet enjeu dont les négociations doivent s'achever cet été.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI, qui évoque le fléau de la surpêche que l'on illustre tout de suite au Sénégal. Les pêcheurs et tous ceux qui dépendent de cette activité le voient bien depuis plus de 15 ans. La ressource se fait de plus en plus rare. Où sont passées par exemple les yaboy, ces sardinelles rondes qui grouillaient dans les filets? Elles sont avalées, siphonnées par la pêche industrielle. Et encore, le danger s'exporte-t-il aussi sur Terre? Les scientifiques s'alarment par exemple des usines de farine de poisson. Elles poussent comme des champignons, elles engloutissent chaque jour des milliers de tonnes. Écoutez les explications de Timothée Briochet, chercheur à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir des années 2010-2014, c'est le développement de l'industrie de farine de poisson à terre. À commencer par la Mauritanie, qui est le pays qui est un peu un pays qui focalise les populations de poissons qui migrent dans la zone. C'est-à-dire que dans cette zone-là, ils sont présents toute l'année. Et bien, dans cette zone-là, ils ont construit des dizaines et des dizaines d'usines de farine de poisson. Chacune de ces usines a une capacité de traitement qui dépasse les 300 tonnes par jour. Ça, c'est les petites, hein. Ça va jusqu'à plus de 600 tonnes par jour pour les grosses. À Noidibou, vous en avez une quarantaine. L'autre très gros producteur de farine mondiale, qui était le Pérou, à ce moment-là, il y a eu un écroulement de population là-bas. Il y a eu un report un peu de ce marché vers l'Afrique de l'Ouest. Donc en particulier cette sardinelle ronde s'est complètement écroulée suite à cette exploitation qui a eu très très côtière dans la zone où vraiment elle est très facile à attraper et les usines ont été construites à côté. C'est vraiment le problème des farines animales qui créent une demande infinie pour ces poissons-là, alors que ces poissons-là pourraient largement nourrir toute la population d'Afrique de l'Ouest sans souffrir de surexploitation.
Timothée Briochet de l'Institut de recherche pour le développement avec Léa Lisa-Vesterhoff, les pêcheurs des côtes ouest-africaines face au fléau de la surpêche. Grand reportage ce soir sur nos antennes où nos envoyés spéciaux et nos correspondants ont écumé les littoraux du Sénégal jusqu'au Ghana. Rendez-vous 19h40 en temps universel. Entretien aussi après ce journal avec Foga Agbetosou. Lui se bat sur les côtes togolaises contre la pollution plastique en particulier. Et puis je vous rappelle notre édition spéciale en direct de Nice avec Anne Cantner et ses invités dans un peu plus d'une demi-heure sur cette antenne. L'Organisation économique de l'Afrique centrale en passe de perdre l'un de ses 11 membres. Le Rwanda quitte la CEEAC, annonce de Kigali ce week-end, qui entend par là marquer son mécontentement face, je cite, à l'instrumentalisation de l'organisation régionale. Tout cela serait le fait de la République démocratique du Congo. Kinshasa aurait réussi à obtenir d'un an le report de l'accès au Rwanda à la présidence tournante de l'organisation. Les relations entre les deux pays demeurant par ailleurs glaciales, Kinshasa dénonce toujours le soutien de Kigali aux hommes de la FCM23 dans ses provinces de l'Est. Quelle sera la portée pour le Rwanda de son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ? Ça ne devrait pas lui porter préjudice, répond Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'Institut français des relations internationales.
Parce qu'il appartient à d'autres organisations régionales aussi, et surtout parce que la CEAC ne lui apporte probablement rien et est une organisation régionale qui est assez largement une coquille vide, qui n'a ni réussi dans son mandat économique, donc de coordination des économies de la région. On lui a donné plus tard un mandat politique, un mandat de paix et de sécurité et donc de gestion des différentes crises dans la région Afrique centrale. Et on voit bien que aussi bien au plan de la coordination des économies de la région que de la gestion des conflits dans la région, elle a échoué, puisque conflits dans la région, elle n'en a résolu aucun. Ils ont cessé de se multiplier. Et le dernier en date important, c'est celui entre Kinshasa et Kigali, dans lequel la CEAC ne joue absolument aucun rôle.
Thierry Vircoulon du Centre Afrique de l'IFRI répondait aux questions d'Amélie Tullet. L'opinion publique à Kinshasa s'émeut de plus en plus de la recrudescence des braquages armés. Il ne s'écoule plus une semaine sans qu'un nouveau cas de violence de ce type ne défraie la chronique. Des hommes armés à moto qui commettent leur forfait en plein jour et des affaires qui remontent désormais aux oreilles de la présidence. Vendredi dernier, en Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a demandé des mesures et la mobilisation des services de sécurité face à ces braquages. Mais au sein de la société civile, certains restent sceptiques. Ainsi par exemple de Jonas Tshombela, de la plateforme Nouvelle Société Civile Congolaise. C'est un regroupement d'ONG. Lui suspecte que parmi les auteurs de ces braquages se trouvent des membres justement des forces de sécurité.
Nous constatons la défaillance de l'autorité de l'État à faire régner la paix sur l'ensemble de la ville. Des cas de violence sont monnaie courante et c'est chaque jour. Des braquages en plein jour, des assassinats ciblés, violents. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que cette ville n'est plus dirigée. Moi, je crains fort que dans les services de sécurité, il y ait des éléments qui troublent. On peut trouver les forces de l'ordre, mais à côté, les braquages peuvent avoir lieu. Donc, nous craignons que les services soient complices de ce qui arrive. Mais que l'inspection générale de la police puisse se mettre pour savoir s'il n'y a pas des éléments qui sont dans leur rang. Au niveau de la société civile, nous appelons toutes les organisations, les confessions religieuses, des intellectuels et des artistes, que nous puissions nous mobiliser pour faire face à cette situation. Sinon, la ville et ne pas gouverner.
Jonas Tshombela de la Nouvelle Société Civile Congolaise, propos recueillis par notre correspondant Pascal Moulégua. Au Congo, Brazzaville voisin maintenant, le directeur général de la police tente de désengorger les cellules de garde à vue et de détention provisoire, mais sans s'attirer pour autant les faveurs des défenseurs des droits de l'homme. Le général André Fils Aubameyitou envoie une note à ses services en leur intimant de limiter considérablement cette pratique de la garde à vue. Il demande qu'elle soit réservée aux suspicions de crimes et délits les plus graves, avec accord préalable du procureur. À ses yeux, les infractions de moindre envergure devraient échapper à cette détention si la personne est susceptible de se présenter par la suite en justice. Mais les ONG estiment que cette circulaire ne résoudra pas le problème de fond, celui de l'engorgement des cellules. Explication à Brazzaville, Loïcia Martial.
Cette initiative a suscité des critiques parmi les défenseurs des droits humains. il y a encore plus de 2 semaines, 6 jeunes sont décédés en prison alors qu'ils étaient en détention provisoire. Pour Bertrand Meunier, du mouvement Ras-le-bol, cette mesure arrive trop tard et ne règle pas le problème de fond.
Mais moi, je pense que le directeur général de la police, il est informé depuis belle lurette de ce qui se passe dans les prisons. Et donc, étant autorité hiérarchique de ces commissaires, il devait prendre une telle note depuis longtemps. Et moi, je pense que c'est le médecin après la mort.
Selon les informations fournies l'an dernier par Prison Insider, une ONG française, la surpopulation carcérale serait au Congo de plus de 300%. Pour Rock et Lojunzobo, du Cercle des droits de l'homme et de développement, il faut revoir l'ensemble du système.
Le problème de la surpopulation au niveau des lieux de garde à vue est dû tout simplement au manque d'infrastructures adaptées au contexte actuel. Donc il faut que l'État commence par d'abord construire tout ce qui est structure pour les gardes à vue et même les prisons.
Selon une source proche de la police, chaque jour des dizaines de jeunes sont arrêtés, souvent pour des soupçons d'associations de malfaiteurs. Ils restent en prison sans pouvoir se défendre et sans voir de juge parfois plusieurs mois durant. Loïcia Martial, Brazzaville.
Et ce sont maintenant les défenseurs des droits humains au Kenya qui s'indignent après la mort en cellule d'un jeune homme gardé à vue, justement Albert Ojwang, qui a été déclaré mort hier 24 heures après avoir été arrêté. Les forces de l'ordre l'avaient interpellé en l'accusant de fausses publications après des messages qu'il avait diffusés sur le réseau X. Le lendemain de cette interpellation, donc, ses proches apprennent qu'il est décédé quelques heures plus tard après des coups à la tête qu'il se serait lui-même infligé. Les organisations de défense des droits de l'homme remettent en cause ouvertement cette version des faits. Alban Tiroir.
Albert Ojwang a été arrêté samedi dans le comté d'Homa Bay, dans l'ouest du Kenya. En cause, une publication sur X qui aurait insulté un officier de police. Il a ensuite été conduit à Nairobi où il a passé la nuit en détention. C'est lorsque son père vient lui rendre visite dimanche qu'il apprend le décès. Dans son communiqué, la police kenyane affirme qu'Albert Ojwang s'est blessé après s'être cogné la tête contre le mur dans sa cellule et a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Une version officielle qui n'a pas convaincu l'opinion publique, alors que les forces de l'ordre sont régulièrement accusées de tueries extrajudiciaires au Kenya. En ligne, les Kenyans ont dénoncé une tentative d'étouffer l'affaire sous le hashtag « Justice pour Albert Ojwang ». Les ONG de défense des droits humains demandent une enquête. Ce décès doit être traité comme une mort suspecte, incite Irungu Houghton, directeur de la branche kenyane d'Amnesty International. L'hypothèse du suicide ne tient pas pour Faith Odhiambo, la présidente de l'association des représentants du droit, citant des marques de blessures sur plusieurs parties du corps d'Albert Ojwang. La police affirme qu'une investigation a été ouverte. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Quelques lignes encore sur le Kenya et l'arrestation d'un militaire britannique. Après des accusations de viol, Londres a confirmé hier l'interpellation de l'un de ses soldats. Les faits incriminés se seraient produits le mois dernier à Nanyuki, dans le nord du pays, près des locaux de la Batouk, l'unité de formation de l'armée britannique dans le pays, et ces faits ravivent par ailleurs la très vive controverse autour de cette unité. Controverse qui remonte à il y a 13 ans, lorsque Agnès Wanjiru, une jeune Kenyane, avait été retrouvée morte dans une fosse septique. Quelques heures auparavant, elle avait été vue en compagnie de soldats britanniques. La vérité judiciaire n'a jamais été totalement faite sur cette affaire. RFI à Nairobi, il est 8h43 et vous êtes avec Andréane Mella.